L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Il est environ 10h30. Nous sommes le 12 février 1947. Dans les salons parisiens du 30 avenue Montaigne, une adresse qui s'apprête à devenir l'une des plus célèbres du monde de la mode. Une foule de personnes est en effervescence à l'intérieur de ce petit hôtel particulier parisien. Des amis du couturier, un large public féminin, des princesses, des comtesses, quelques acheteurs professionnels, ainsi que des journalistes de magazines de mode français, mais aussi internationaux. Tout ce beau monde est ici pour assister au tout premier défilé d'un certain Christian Dior. Oh, il ne le sait pas encore, mais il s'apprête à bouleverser l'univers de la haute couture comme jamais personne avant lui. Dans les trois pièces en enfilade du premier étage, il est strictement interdit de photographier ou de dessiner les modèles pour préserver le mystère et éviter les contrefaçons. Heureusement pour Christian Dior, les smartphones n'existent pas encore et la foule est trop impressionnée pour déroger à la règle. En coulisses, 90 mannequins s'apprêtent à mettre en avant les deux toutes premières lignes directrices de la marque Dior. Corolle, du nom d'une fleur chère au cœur de l'artiste, et en 8, son chiffre fétiche. Un peu comme pour se porter chance. Une première collection printemps-été qui propulsera directement Christian Dior au rang des plus grands couturiers du monde. Mais pour l'heure, il n'est qu'un illustre inconnu issu de la bourgeoisie parisienne qui peine à se faire un nom et qui s'est lancé un pari complètement fou. 10h30, l'heure H de mon histoire. Comment devient-on célèbre? Comment arrive-t-on à toucher les gens de notre art? En réalité, très peu de gens y arrivent. Et absolument rien ne prédisposait Christian Dior à y parvenir, même s'il a toujours vécu dans le luxe et le raffinement. On peut assurément dire qu'il est né sous une bonne étoile lorsqu'il voit le jour un samedi de janvier 1905 à Granville, en Normandie. Il est le deuxième garçon d'une famille qui comptera 5 enfants en tout, dont 2 sœurs cadettes. Un jour, il dédiera un parfum à Catherine, sa plus proche sœur. Son père est un riche industriel français, spécialisé dans les engrais et l'eau de Javel. L'engrais Dior, c'est de l'or. Alors même, si c'est nettement moins glamour que la haute couture, ça permet à Christian de naître avec une cuillère en argent dans la bouche. Peu de temps après la naissance de Christian, les Dior s'installent à la villa des Rums. Une splendide bâtisse construite à la fin du 19e siècle, dans un style belle époque, sur les hauteurs de Granville. Christian adore cet endroit. Il s'y sent chez lui plus que n'importe qui d'autre. C'est sa maison, c'est son refuge. Il y passe la plus belle enfance du monde. L'endroit est majestueux, à la fois imposant mais élégant. Un bloc massif, aux couleurs douces de gris clair et de rose pâle, niché tout en haut d'une falaise, au beau milieu d'un parc avec une vue exceptionnelle sur la Manche et des jardins à perte de vue. Madeleine Dior, la mère de Christian, aime les belles choses et les fleurs en font partie. C'est elle qui transmettra, sans le savoir, l'amour de l'art floral à son fils. Comme les affaires de la famille Dior ne cessent de fructifier, toute la maisonnée s'installe à Paris lorsque Christian a 6 ans. Mais pas question de se séparer de la villa des Rums. Christian y revient chaque été avec sa mère pour entretenir les jardins et perfectionner ses connaissances botaniques. La famille retourne même s'y réfugier durant la guerre de 14-18. Dans ses mémoires, le styliste dira de cette bâtisse « Ma vie, mon style doivent presque tout » à la situation de cette maison et à son architecture. Christian Dior a toujours un mot à dire sur la décoration de sa mère, une remarque sur l'argenterie, sur les lustres, les tapisseries, et même sur les tenues de ses sœurs. À 13 ans déjà, il dessine et confectionne les costumes de carnaval de toute la maison, sous l'œil admiratif de sa grand-mère. bientôt, ce sont les cousins, les cousines et les voisins qui passent commande pour avoir leurs habits de fête. À 18 ans, Christian Dior veut s'inscrire aux Beaux-Arts. Il veut se perfectionner en dessin et en couture pour faire des vêtements et lancer sa propre marque. Ouais. Pas de chance pour lui. Ses parents refusent. Son père l'imagine homme d'affaires, sa mère diplomate. Il suit leur conseil, la mort dans l'âme, et s'inscrit à l'École des sciences politiques de Paris. Alors, il n'y fait pas grand-chose, si ce n'est des rencontres incroyables, comme les poètes Max Jacob et Jean Cocteau, qui deviendront ses amis intimes. En 1928, à défaut de pouvoir faire des vêtements, sans le sou, sans diplôme et sans nom, Christian décide d'ouvrir une galerie d'art. Son père accepte de financer ce projet, à condition que la galerie ne porte pas son nom. Hors de question que Dior figure sur ce projet complètement farfelu. Dommage pour le patriarche, le concept fonctionne tellement bien qu'une seconde galerie voit le jour. Le but est d'exposer un maximum des grands maîtres les plus admirés de l'artiste. Christian n'y expose pas simplement des petits tableaux de quartier, non, tenez-vous bien. C'est là que sera exposée pour la toute première fois en France la toile surréaliste de Salvador Dali, intitulée « La persistance de la mémoire », plus communément appelée « Les montres molles ». Christian Dior et ses amis vont avoir la chance incroyable d'exposer toutes sortes de peintres absolument extraordinaires. Et écoutez plutôt, Pablo Picasso, Salvador Dali, Marcel Duchamp, René Magritte, Alberto Giacometti, Miro et bien d'autres encore. Tous sont présents dans ces deux petites galeries parisiennes. À défaut de confectionner des vêtements, Christian s'épanouit dans ce milieu artistique. Il aime l'art. Ça le rend heureux pour le moment, même si, au fond de lui, il sait qu'il veut faire des vêtements. Il ne sait juste pas encore par où commencer. Le 4 mai 1931, Madeleine Dior meurt, laissant son fils dévasté. Peu de temps après, son père, Maurice, est complètement ruiné à cause de mauvais placements et de dettes de jeu. Plus d'argent, plus de financement. En 1934, Christian est obligé de fermer ses galeries. Et puis pire que ça, son père se retrouve contraint de vendre la Villa des Rums, cette maison si chère à son cœur. Lorsque ses galeries ferment, Christian Dior est forcé de liquider tout son stock d'incroyables tableaux à des prix complètement dérisoires. Imaginez un peu des pièces de collection aujourd'hui inestimables, bradées aux plus offrants. Plus d'art, toujours pas de conception de vêtements en vue, le voilà donc maintenant sans argent. Christian est détruit. Aucune voyante ne lui avait prédit cette tragédie, lui qui est tellement sensible à la lecture de son avenir. Il n'a rien vu venir. En 1914, à la kermesse de charité organisée au profit des soldats de Granville, sa ville d'origine, Christian rencontra pour la toute première fois une diseuse de bonne aventure qui lui fit le plaisir de lui lire les lignes de la main et de lui annoncer « Vous ferez fortune à travers les femmes. » Si cette prémonition laissa le jeune homme plutôt perplexe sur le moment, l'avenir lui prouvera à plusieurs reprises qu'elle avait vu juste. À partir de ce moment, les voyantes feront partie intégrante de sa vie. 1935. Sa famille est tellement ruinée que son appartement personnel est aussi saisi. Christian habite désormais chez ses amis. Et heureusement pour lui, il en a de bons et fortuné de surcroît. Durant près de 10 ans, le futur couturier vit de la générosité de ses proches artistes et de la braderie de quelques tableaux. Souvenez-vous, à 13 ans, Christian confectionnait déjà des costumes pour sa famille. Alors, à défaut de trouver le moyen de lancer sa propre collection de vêtements, il se remet à confectionner des costumes pour le cinéma et le théâtre. Pourtant, son rêve à lui, c'est de fabriquer des vêtements que des dames puissent porter, de les penser, de les dessiner, de les coudre, de les voir porter sur des mannequins faits de chair et d'os. Il dessine sans cesse. Ses croquis envahissent sa chambre et l'appartement de son meilleur ami, et probablement, mais sans la moindre perspective à l'horizon. Mais comment ? Comment entrer dans le milieu si fermé de la haute couture? Et là, pour le coup, Christian désespère. Après moult demandes et à défaut de lancer sa marque, il arrive enfin à démarcher quelques grandes enseignes du moment. Certains de ses croquis trouvent succès auprès de Nina Ricci, Balenciaga et Schiaparelli. Il commence à peine à se faire un nom dans le milieu de la mode lorsque la Seconde Guerre mondiale vient bouleverser le monde. Christian Dior se retrouve démobilisé avec son père et sa plus jeune sœur dans le sud de la France. Sa sœur cadette, Catherine, sa préférée. Sans doute l'être humain avec lequel il s'entend le mieux sur Terre et qui le soutient depuis toujours est dénoncé pour ses activités d'activiste. Il ne cessera jamais d'espérer son retour. Miss Dior. Voilà le surnom qu'il donnait à sa tendre Catherine. Ce même nom que portera son célèbre parfum, lancé en 1947. Mais n'allons pas trop vite. En 1942, Christian n'en peut plus du Sud. Il est déterminé à apporter du changement dans sa vie et vivre de sa passion, la mode. Il revient à Paris, se fait engager en tant qu'assistant styliste chez Lucien Lelon, une des plus grandes maisons de couture parisiennes du moment. Alors, c'est pas encore exactement ce qu'il veut, mais au moins, il est dans son élément et il fait ses premières armes dans la haute couture. Christian Dior a du goût, du talent et des amis fortunés. Voilà plusieurs années qu'il gravit les échelons dans le milieu de la mode, mais personne ne connaît son nom. Il est toujours inconnu, alors que son rêve à lui, c'est que toutes les femmes du sud de l'Italie au nord de l'Amérique se battent pour porter sa griffe. L'idée de créer sa propre maison de haute couture ne le quitte plus. Cela devient même une obsession. Mais comment ? Comment passe-t-on d'illustre inconnu à célèbre couturier ? Alors vous allez me dire qu'il faut sans doute un peu de chance. Mais pas que. Et ça, nous allons découvrir.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, je vous raconte le destin hors du commun de Christian Dior. Un homme audacieux et superstitieux qui sait ce qu'il veut et qui va tout faire pour l'obtenir. Une forte personnalité qui va bâtir un incroyable empire. Entre élégance, raffinement et parfum de fleurs. Revenons sur une partie de son incroyable histoire. Le 19 avril 1946, Christian Dior a rendez-vous avec Marcel Boussac, un richissime homme d'affaires français, sans doute dans le top 10 des plus grosses fortunes européennes de l'époque. Et surtout, le plus célèbre des industriels de l'après-guerre. Il est aussi l'époux de la soprano belge Fanny Eldy. Mais ça nous intéresse un peu moins pour l'instant. Le « roi du coton », comme beaucoup le surnomment, veut à tout prix que Christian Dior reprenne la direction artistique d'une maison de mode qu'il vient d'acquérir et qui porte le nom de Philippe Gaston. Cette dernière ne génère pas suffisamment de bénéfices à son goût. Marcel Boussac veut aussi secrètement entrer dans le milieu très fermé de la haute couture. Jusque-là, il ne faisait que du prêt-à-porter entrée de gamme et ça lui réussissait plutôt bien. Alors, pourquoi ne pas monter d'un cran ? De nature audacieuse et spontanée, on peut dire qu'il a le sens des affaires. D'ailleurs, lorsqu'on lui présente un parfait inconnu du nom de Christian Dior, styliste de 40 ans passés, dandy tranquille, à la fois discret et sûr de lui, Marcel voit tout de suite un potentiel inestimable. Et on peut assurément dire qu'il a vu juste. Christian Dior hésite beaucoup avant d'accepter la proposition de Boussac, qu'il a rencontré totalement par hasard il y a quelque temps déjà. Plusieurs entrevues ont lieu entre les deux hommes sans pour autant aboutir à une quelconque décision. Depuis 1942, Christian est assistant styliste aux côtés d'un certain Pierre Balmain, dans une des plus grandes maisons de couture parisienne. C'est là qu'il fait ses armes, qu'il apprend réellement le métier de styliste, avec les contraintes de l'après-guerre, les restrictions de matériaux et l'inquiétude permanente d'une fermeture sans sommation. Dior a envie de changement, certes, mais l'idée de reprendre l'enseigne ne l'enchante pas plus que ça. En réalité, il ne veut pas du tout travailler pour cette maison de mode. Il sent dans ses tripes que son destin est ailleurs, mais il ne veut pas complètement fermer la porte à Boussac pour autant. Un pressentiment lui souffle que cette décision importante pourrait changer le cours de sa vie. Christian Dior est un homme superstitieux, très superstitieux. Il voit des signes du destin partout et tout le temps. Ce soir d'avril 1946, la soirée est printanière. Le vent est doux, on entend presque les oiseaux chanter. Le lendemain, Christian a rendez-vous avec Marcel Boussac pour enfin trouver un accord définitif. Ses mains sont moites, son souffle est court. Il est stressé. Il ne sait pas ce qu'il doit faire. Sur le trajet qui le ramène chez lui, le futur couturier rencontre trois fois de suite un ami d'enfance qui connaît Marcel Boussac et qui tente à chaque fois de le convaincre de voler vers son avenir. Quelles sont les chances de croiser trois fois de suite le même homme dans les rues de Paris ? Et juste après ces trois rencontres inopinées, sur ce même chemin qui le mène à son domicile, son fabuleux destin se met définitivement en route. En remontant la rue du Faubourg Saint-Honoré, Christian Dior trébuche sur un objet, évitant de justesse une vilaine chute. Comme si l'objet lui-même cherchait à attirer son attention. En reprenant ses esprits, il prend conscience qu'il se trouve juste devant l'ambassade du Royaume-Uni. Alors, la nostalgie le submerge, celle de son enfance à Granville, en Normandie, face aux îles anglo-normandes. Après un moment de rêverie, Christian Dior se penche et ramasse l'objet qui aurait pu le faire choir. C'est une pierre en forme d'étoile, peut-être celle qui le projettera au firmament de la haute couture et du luxe. Christian est certain, c'est un signe, il doit dire oui. Il doit accepter cette fameuse proposition. À ce moment précis, il sait qu'il ne peut plus échapper à son destin et que Boussac en fait partie, mais pas à n'importe quel prix. Son oui aura des conditions. Le lendemain, arrivé devant son futur mécène, porté par l'assurance que son étoile ne le trompera pas, Christian Dior annonce à Marcel Boussac qu'il ne veut pas travailler pour Philippe et Gaston, mais qu'il est tout prêt à ouvrir une maison à son nom à lui. Oui, une toute nouvelle maison de haute couture. Si Balenciaga, Céline ou encore Schiaparelli ont la leur, pourquoi pas lui ? Coup de génie ou coup de folie ? Eh bien, peut-être les deux. En tout cas, Marcel Boussac se laisse convaincre par Christian Dior de créer sa propre maison de couture. Pour la première fois dans sa vie de patron, Boussac donne carte blanche à un inconnu. Et surtout, 60 millions de francs pour mener à bien ce projet absolument insensé, mais dans lequel chacun des deux protagonistes croit dur comme fer. Le hasard vient toujours au secours des gens qui ont très envie de quelque chose, écrira un jour Christian Dior dans ses mémoires. Le styliste voit des signes partout et veut sans cesse croire en son fabuleux destin. Les voyantes l'accompagneront à chaque instant de sa vie, lui permettant d'apaiser son cœur quand il en a besoin, de continuer à espérer quand le doute commence à s'installer ou simplement de faire des choix décisifs pour sa carrière. D'ailleurs, lorsque Marcel Boussac accepte son idée d'ouvrir sa propre maison de haute couture, Christian Dior court chez Madame Delahaye, sa tireuse de cartes fétiche depuis quelques années déjà, pour lui demander son avis. « Acceptez ! Acceptez ! Vous devez créer la maison Christian Dior. Quelles que soient les conditions, tout ce que l'on pourra vous offrir plus tard ne se compare pas à la chance d'aujourd'hui !» lui répond la voyante. C'est cette même Madame Delahaye qui, quelques années plus tôt, n'a eu de cesse de lui répéter que sa sœur, Catherine Dior, arrêtée par la Gestapo durant la guerre et déportée dans le camp de concentration pour femmes de Ravensbrück, allait revenir. Et elle avait vu juste. Christian est donc convaincu qu'elle ne se trompait jamais. Du coup, plus de doute. Il va créer sa propre maison de couture à tout juste 42 ans. Mais comment ? Où ça ? Tout reste à construire. En juillet 1946, Dior et Boussac se mettent d'accord sur le lancement de cette nouvelle maison Christian Dior. Et c'est l'hôtel particulier du 30 avenue Montaigne à Paris qui est choisi pour servir d'atelier. Voilà un petit temps que Christian cherchait un endroit dans cette rue. Alors, dès qu'il apprend que le 30 s'est libéré, il se rue carrément dessus. Il fallait que ce fût 30 avenue Montaigne. « Je m'installerai ici et nulle part ailleurs. C'était ma maison. Une joie inouïe m'envahit dès que je l'ai vue », aurait-il dit à l'un de ses collaborateurs. Un peu comme une évidence, Christian succombe au charme de cette bâtisse, pas très grande, qu'il faudra aménager pour recevoir le personnel, les clientes et les ateliers. L'immeuble est à la fois sobre et raffiné. Christian le choisit pour son emplacement dans un quartier qu'il affectionne particulièrement, tout autant que ses proportions modestes et sa façade néoclassique. Des proportions qui ne resteront pas discrètes bien longtemps, puisque de 3 ateliers au départ, on passera quelques années plus tard à 27 en tout, pour un immeuble qui fera 7 étages à la fin des travaux. Dior achètera au fur et à mesure de son succès toutes les maisons avoisinantes. Mais pour l'instant, nous sommes toujours en 1946. La boutique n'a pas encore ouvert et il faut tout aménager pour accueillir les tissus et les futures clientes. Le 1er décembre 1946, Dior quitte officiellement et définitivement les fonctions qu'il occupe chez Lucien Lelon pour se consacrer exclusivement à imaginer et dessiner sa première collection de haute couture. Ça y est, il va enfin réaliser le rêve de sa vie. Il est conscient de sa valeur. Il sait qu'il va réussir. Il doit réussir, pour lui, bien sûr, mais aussi pour les siens. Dans son esprit, il doit sauver l'honneur, redorer le blason des Dior, entaché par la ruine, eux qui étaient si prospères. Oh, le chantier est colossal, mais Christian ne doute pas une seconde d'arriver à ses fins. Il faut quand même créer une ligne à partir de rien, et cela à 3 mois à peine de la prochaine Fashion Week. Heureusement, Christian Dior est perfectionniste. Il sait exactement ce qu'il veut. Il gère l'extension de son hôtel particulier d'une main de fer, tout en engageant le personnel, en choisissant les étoffes pour créer ses futurs vêtements. Tout doit être parfait pour le lancement de sa première ligne. Oh, il est stressé, mais ça, il ne le dit à personne. Il garde ses craintes pour lui et fait bonne figure auprès de tous. Hors de question de laisser passer sa chance. 15 décembre 1946, Christian Dior est le plus heureux des hommes. Un sentiment de fierté et d'accomplissement le comble de bonheur. La maison Dior est officiellement inaugurée. Non pas en grande pompe, mais de manière sobre. Discrète même, à l'image de Christian. Il ne veut pas que le tout Paris se rue sur ses vêtements. Ce serait vulgaire. Il veut une clientèle triée sur le volet. Il veut donner du privilège à des acheteuses exclusives. Christian Dior est heureux, mais son magasin n'est pas encore connu à sa juste valeur. En parallèle de l'ouverture, il se donne corps et âme à sa prochaine collection. Il faut qu'elle soit belle, c'est certain. Mais surtout, elle doit être plus belle que celle des autres. Aujourd'hui encore, le 30 avenue Montaigne est toujours la maison mère de Dior, son siège social. Seulement, cette adresse mythique se décline désormais sur plus de 10 000 mètres carrés, transformée en ateliers, boutiques, restaurants, galeries et bureaux. Alors, c'est évidemment le couturier qui a rendu cet endroit célèbre, mais c'est un défilé de mode qui en a fait de place to be les années 1950. Et vous allez voir, la superstition de Christian Dior va lui porter chance. Enfin, pour celles et ceux qui y croient, évidemment. Pour les autres. Disons que c'est surtout son talent qui va l'emmener loin. Très loin.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, je vous raconte la fabuleuse histoire de l'homme qui se cache derrière la maison de haute couture Dior. Des parfums, aux robes iconiques, tout a commencé avec un incroyable défilé de mode, beaucoup d'audace et de talent aussi. Mais pour l'heure, Christian Dior n'est pas encore arrivé au firmament de sa carrière. Et préparez-vous, elle est sur le point de décoller. À partir du printemps 1947, les femmes ne seront plus jamais les mêmes. Christian Dior en est convaincu. Il a travaillé d'arrache-pied pour atteindre ce changement. À l'arrivée des beaux jours, le couturier, de nature superstitieuse, on l'a vu, guette l'arrivée de sa fleur porte-bonheur, le muguet. Une légende raconte qu'il glisse dans l'ourlet de chacune de ses créations un brin séché de la délicate fleur dont il ne se sépare jamais lui-même. On dit même qu'il aurait toujours dans la poche de son veston un petit rameau de sa fleur chérie. La légende dit aussi qu'il garderait à portée de main un trèfle à quatre feuilles, deux cœurs, un morceau de bois, une pièce d'or. L'artiste aime aussi s'amuser avec les chiffres, et surtout le 8, son chiffre porte-bonheur qu'il donnera comme nom à sa première collection. Christian Dior est un homme drôle, généreux. Il a un charme fou, mais il est plus en chair qu'en os. Malgré son succès fulgurant, le couturier est un être complexé par un physique ingrat. On dit qu'il compense ses frustrations par la nourriture. Le couturier aime marquer la taille de guêpe de ses mannequins dans plusieurs de ses collections. Dans son autobiographie, Dior raconte que sa ligne, ligne de son corps et non de sa collection, était constamment menacée par son amour de la bonne chair. Le styliste est un bon vivant. Il adore organiser des repas gargantuesques en invitant tous ses amis. Seulement, ce goût prononcé pour les bons mets est pour beaucoup la compensation d'une immense souffrance. Christian est resté profondément secret sur sa vie privée des années durant. Bien qu'il n'ait jamais eu de mal à s'afficher avec ses amis ouvertement homosexuels, dont les poètes Max Jacob, Jean Cocteau ou encore l'écrivain Maurice Saxe, Christian Dior reste discret sur son homosexualité une très grande partie de sa vie. On raconte que la plupart des hommes qu'il désirait devenaient ses amis et non ses amants, ce dont il se consolait en mangeant. Lorsque les journalistes américains lui demanderont pourquoi un si bon parti comme lui n'avait pas encore fondé une famille, il répondait simplement qu'il habillait déjà beaucoup de femmes dans le monde et que cela lui suffisait. Dior connut quelques histoires amoureuses qui l'ont rendu heureux. Son dernier compagnon fut le chanteur Jacques Benita, de 25 ans son cadet, qu'il rencontra en 1956, à peine un an avant sa disparition. Benita fut le premier amant avec lequel Christian Dior s'afficha ouvertement et auquel il donna des marques d'affection en public. Ce qui a d'ailleurs dérangé plusieurs personnes dans son entourage, comprenant un grand nombre de femmes, ses muses et collaboratrices redoutant la concurrence d'un amant. Christian Dior ne vivait que par les femmes. Il les aimait, s'en inspirait, les habillait mieux que quiconque, mais c'était un homme qui avait son cœur. Il fait un froid glacial ce matin du 12 février 1947. Aux alentours de 9h45 du matin, une grande file commence à se créer devant l'entrée de l'hôtel particulier du 30 avenue Montaigne. Elle se compose d'un groupe de personnes plutôt chics, très élégantes même. Les femmes portent des manteaux luxueux, des étoffes en vison pour se protéger du froid, des sacs en piton et des souliers en cuir. Aucun signe extérieur de richesse n'est de trop. Des signes toujours élégants, c'est le mot d'ordre du jour. Les hommes ne sont pas en reste dans leurs somptueuses redingotes, hauts chapeaux et cannes assorties. Tout le monde a son carton d'invitation, dans des mains couvertes de gants blancs. Inutile de vous dire qu'une fois passées les portes de l'hôtel particulier, toutes et tous oublient la longue attente dans le froid. À l'intérieur, tout n'est que grâce, volupté, luxe, raffinement. Il y a des fleurs partout où les regards se posent. Des bourgeons au parfum enivrant qui subliment la magnifique décoration au style Louis XVI de la maison. Des lustres de cristaux translucides aux abat-jour plissés. Des moulures au plafond jusqu'au tapis persan. Rien n'a été laissé au hasard pour que cette journée soit parfaite, absolument parfaite. Dans les trois salons en enfilade qui serviront au défilé, il y a du beau monde. On peut reconnaître l'ambassadrice d'Angleterre à Paris, les actrices Marlène Dietrich et Edwige Feuillère, et puis des comtesses et des princesses à tour de bras. Il y a aussi Jean Cocteau et Jean Marais, des amis chers au cœur de Christian Dior, et beaucoup. Beaucoup de journalistes ont été invités à venir découvrir ce nouveau créateur. 10h28. Un doute s'installe dans la tête de Christian. Et si le public n'était pas suffisamment ouvert au changement? Et si son audace était trop avant-gardiste? Boussac a investi trop d'argent dans son projet. Beaucoup de ses amis connus ont mis leur réputation en jeu pour soutenir ce défilé. Lui, qui est toujours si serein, tout d'un coup, ne croit plus en son fabuleux destin. Il y a trop de choses en jeu. Au-delà de la réputation de ses proches et de la somme colossale investie, Christian Dior a mis tout son cœur et son âme dans la confection de ses vêtements. Il y avait un peu de lui dans chaque doublure, dans chaque pli, dans chaque couture. Des croquis au choix des tissus, Dior n'a rien laissé au hasard pour ses deux premières collections, mais aussi pour toutes celles qui suivront. Oh, il est de toute façon trop tard pour reculer. Dior fait signe à la première mannequin, à 10h30 précise. Un silence s'installe. Le défilé peut commencer. 90 modèles défilent durant une heure et, sans forcément s'en rendre compte, réinventent complètement la mode. Fini les jupes courtes, souliers chasses, vestes aux épaules carrées et tous ces vêtements qui rappellent l'occupation. Les femmes qui apparaissent ont la taille bien marquée, les épaules étroites. Elles portent de longues robes, de longs manteaux larges et virevoltants dans les airs. Christian Dior descend les ourlets en chute libre jusqu'aux chevilles. Il n'y a plus aucune pénurie de tissu. Avant lui, il fallait à peu près 3 mètres de tissu pour confectionner une robe. Il en faudra 30 pour créer un modèle Christian Dior, et parfois même plus. Au bout de 62 minutes de défilé, le couturier arrive, accueilli par une véritable standing ovation. Tout le monde l'applaudit durant de longues minutes. Les princesses, habituellement si réservées, n'hésitent pas à montrer leur enthousiasme à porter ce qu'elles ont vu. Tout le monde passe commande, tout le monde. Christian est aux anges. Plus de doute ni de stress. Il sent que sa carrière est lancée. Il est satisfait de son premier défilé et ne compte pas en rester là. Et son intuition ne l'a pas trahi. Il est tellement heureux qu'il fêtera son succès durant une semaine avec ses amis intimes. Il n'a jamais été aussi content de sa vie. L'allégresse ne le quittera plus jamais. Il en est convaincu. Les journalistes américains encensent le styliste et titrent leur magazine « It's the new look ». Le ton est donné. Le nom de ce moment historique est trouvé. Son défilé est un tel succès que Françoise Giroud, célèbre journaliste et cofondatrice du journal L'Express, écrit le lendemain en une de son article « Inconnu le 12 février 1947 et célèbre le 13 ». Du fameux Harper Bazaar au Vogue, en passant par le Time, tous les journaux et magazines étrangers sont dithyrambiques au sujet de son défilé. Le « new look » fait le tour du monde. Grâce à ses mannequins vêtus de robes corolles et de vestes cintrées, Christian Dior vient de ramener la ville de Paris sur le devant de la scène internationale. Tout d'un coup, la ville lumière redevient la capitale de la mode. Elle, qui avait été éclipsée par New York, par la guerre, qui avait été salie, humiliée, qui avait connu l'horreur du conflit, renaît tout d'un coup de ses cendres pour redevenir le centre névralgique de la haute couture. Cette première collection, présentée à l'hiver 1947, provoque une véritable déflagration. Le « new look », comme l'appellent les anglo-saxons, impose une nouvelle allure, un nouveau style, partout dans le monde. Quelques mois à peine après ce premier défilé et l'ouverture de sa boutique parisienne, Christian Dior est invité à Dallas par la chaîne commerciale de luxe américaine Neiman Marcus, qui lui décerne un Oscar. Le couturier se lance alors à la conquête du marché américain, qui lui déroule un véritable tapis rouge et lui permet d'ouvrir une holding Christian Dior à New York. Plus rien ni personne ne l'arrête. Méticuleux, perfectionniste, il est le premier styliste à intégrer un service de communication et de relations publiques à l'intérieur de sa maison haute couture qui devient dès lors un véritable empire. En homme d'affaires redoutable, il établit lui-même la franchise de sa marque et permet l'utilisation de son nom pour griffer des articles fabriqués en gros par des industriels qui lui paient des royalties. Sa seule condition est de garder la qualité des matériaux et des produits. Voilà un modèle économique absolument inédit pour l'époque. Mais où va-t-il s'arrêter? En 1949, Dior a inauguré des boutiques et des bureaux de relations publiques un peu partout à travers le monde. De l'Angleterre aux États-Unis, en passant par l'Australie et l'Amérique latine, rien ni personne ne lui résiste. Christian Dior est en très peu de temps devenu le couturier des stars. Ava Gardner, Marilyn Monroe, Lauren Bacall ou encore Liz Taylor, toutes s'arrachent ses robes à prix d'or. Marlène Dietrich ne désire d'ailleurs porter que du Dior dans sa vie et à l'écran. L'actrice va même jusqu'à imposer sa marque à ses producteurs. « No Dior, no Dietrich », aurait-elle annoncé à Alfred Hitchcock en 1950 lorsqu'il lui propose de jouer dans « Le Grand Alibi ». En 1956, Christian Dior s'installe dans son château de la Colle Noire, qu'il vient tout juste d'acquérir pour se reposer et écrire ses mémoires. Ces derniers seront précieux pour mettre en lumière le destin hors du commun du couturier. Et en à peine 10 ans de carrière et à partir de son premier défilé New Look en 1947, Christian Dior a créé pas moins de 22 collections automne-hiver et printemps-été. Le célèbre couturier représente de son vivant à lui seul plus de la moitié des exportations de la couture française à travers le monde. Le 4 mars 1957, soit quelques mois à peine avant sa mort, Christian Dior fait la une du Time, devenant ainsi le premier couturier français à faire la couverture du prestigieux magazine américain. 24 octobre 1957, juste après avoir présenté au monde une dernière collection intitulée Fuseau, conçue avec son jeune assistant du nom de Yves Saint-Laurent, le couturier est foudroyé par une crise cardiaque. À l'âge de 52 ans, il s'éteint dans sa chambre d'hôtel à Montecatini, en Italie. Ironie du sort, il y séjournait quelques jours pour une cure de remise en forme. Il est 10h30, ce 29 octobre 1957. Le temps est sec, mais plutôt frisqué, pendant les obsèques de Christian Dior. 2000 personnes sont rassemblées à Saint-Honoré-des-Laux. Parmi elles, beaucoup de vedettes, mais aussi des badauds qui affectionnaient le personnage. La tristesse se lit sur tous les visages. L'église et son appartement sont à l'image de sa jeunesse, pleine de fleurs. Tout envoyé par ses collègues et amis, frappés par la douleur de cette mort soudaine. Elsa Schiaparelli a pensé à un coussin de glaïeul. Cristobal Balenciaga à une couronne de violettes et de roses. Quant à Gabrielle Chanel, elle ne s'est pas jointe à la cérémonie. Elle n'a jamais digéré le succès de Christian Dior. Elle a néanmoins fait parvenir une croix de rose, ses fleurs à elle, pour tout de même marquer sa présence. C'est Yves Saint-Laurent qui reprendra la direction artistique de Dior sous les dernières volontés du couturier avant de lancer sa propre maison haute couture. Le hasard est parfois capricieux. Aujourd'hui encore, les excentricités de son créateur hantent l'histoire de la maison Dior. De l'étoile scintillante posée au sommet de certains des immeubles Dior à la montre 8, en passant par certaines récentes collections de maquillage et des défilés de prêt-à-porter, l'étoile est partout. Mais la magie aussi. Comme pour placer toutes les créations de l'enseigne sous le signe de la bonne fortune, comme pour provoquer la chance à l'infini. Et vu le chiffre d'affaires de la marque et le fait que son actuel patron, Bernard Arnault, fasse partie des hommes les plus riches du monde, on peut dire que ça fonctionne. Il faut donc toujours croire en sa bonne étoile, ou du moins en son talent. Voilà donc pour ce récit du fabuleux destin de Christian Dior, rédigé sous la plume d'Ajar Boulesh.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.